J'avais proposé ce titre, La politique de Gilles Clément, bon, et derrière, mon idée des quatre côtés du cercle. Or, évidemment, bon, c'était une figure, une image sur la quadrature du cercle. C'était le sentiment, l'intuition, qu'il y avait une sorte de décalage, qu'il y avait une difficulté ou un calage imparfait entre la pensée de Gilles Clément, ou les propositions, disons, qu'on pouvait trouver dans les textes, et ce que serait une proposition politique pleinement opérationnelle. Je ne sais pas, les propositions politiques ne sont jamais pleinement opérationnelles, mais disons, voilà, ce sentiment qu'il y avait une sorte d'idéal qui était esquissé, mais qu'il y avait un petit décalage avec les conditions concrètes ou les conditions réelles de mise en œuvre. Et je voulais creuser ce décalage-là. Et finalement, je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi à faire tout à fait ce que j'espérais. Je vais essayer de montrer ce que j'évoquais tout à l'heure en disant manque, c'est-à-dire par moment des choses où je me dis tiens là il y a quelque chose qui doit encore être creusé, et dans certains cas il y a peut-être des contradictions ou des risques que je soulignerai également. En tout cas, j'en ai gardé l'idée de quatre dimensions, les quatre côtés du cercle qui permettent d'essayer de donner une forme à la vision politique de Gilles, que je vais commencer à parcourir dans les parties qui suivent, un rapport entre la pratique et la théorie, ça c'est la démarche finalement de Gilles, un rapport involontaire à la politique, ça a même été exprimé, je crois, Gilles l'a dit un peu plus tôt dans la semaine, ça c'est le rapport à l'engagement politique en l'occurrence. Des forces vitales qui forgent le monde, ça c'est le raisonnement, la vision du monde qui est à la base de la proposition, et puis des dénonciations et des énonciations qui font doctrine, puisque c'est là où je veux en arriver, et ça c'est la mise en forme du propos de Gilles. Donc ces quatre dimensions, je les ai elles-mêmes ordonnées en deux parties, et ensuite, mais je sais que j'aurai plus le temps, j'ai prévu quelques questions qui restent ouvertes et qui devraient faire une troisième partie, si jamais j'ai le temps de les aborder, mais sinon j'aurai une pirouette. J'ai déjà préparé la pirouette. Moi. Alors, j'ai dit que j'ordonnais tout ça en deux parties, puis une troisième. La première, c'est le monde comme modèle de jardin, du jardin. Et la deuxième, c'est le jardin comme modèle du monde. Ah, bon, oui, c'est une pirouette, encore une. Le monde comme modèle du jardin, je veux dire par là qu'il y a, je pense, dans la démarche, je reste au niveau de la démarche de Gilles, une inspiration tiré du monde et qu'il ensuite traduit en manière de faire. Et puis dans la deuxième partie, le jardin comme modèle du monde, là c'est vraiment la position explicite de Gilles, c'est-à-dire je m'inspire du jardin et j'en tire un certain nombre de leçons ou de propositions pour le monde. Alors, donc première partie, le monde comme modèle du jardin. Premier point qui correspond à ce que j'énonçais tout à l'heure comme le rapport entre pratique et théorie, la démarche de Gilles, pratique et théorie, ça commence par un certain nombre de visions du monde. Vision du monde, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais par exemple, un monde entre guerre et paix. Alors très souvent, il y a cette expérience première, du jardinage tel qu'on lui a enseigné ou tel qu'il a eu l'occasion de le pratiquer, comme une guerre. Et puis, il y a un certain nombre de compétitions ou de violences intrinsèques dans la nature. Et il y a une aspiration à un apaisement, à une sérénité, une réconciliation. Donc, on voit qu'on a toujours ce balancement entre guerre et paix. Je vais très, très vite. On a ensuite évidemment tout ça est lié. Dans cette vision du monde quelque chose qui est là encore en contrepoint de l'ordre de l'ordonnancement, où on a le paysage domestique, on a l'artifice, on a la mise en ordre, alors là qui est évidemment poussé à bout, et de ce point de vue-là rejeté par Gilles, dans le jardin ornemental classique. Mais on voit bien qu'en même temps, Gilles ne déteste pas des formes de mise en ordre très, très poussées dans des jardins orientaux ou dans d'autres inspirations. Donc on a cette vision-là d'un monde qui est ordonné, mise en ordre, qui est aussi une mise en forme. Et puis on a l'attrait pour le foisonnement, pour l'imprévisible, pour la diversité qu'on rencontre dans le vaste monde. Et cette richesse et cet ordonnancement sont en tension. Et là encore, il s'agit de se situer et de réussir à articuler les deux mouvements, si j'ose dire. Et puis, dans cette vision du monde, il y a une question de posture personnelle qui est, on va dire banalement, une ouverture d'esprit, qui est très active, qui est une curiosité, une quête de connaissances, les sens en alerte et toujours à essayer de puiser, de glaner, de tirer des enseignements ou au moins des observations, des leçons, des idées, des inspirations du monde qu'il s'agit d'aller parcourir. Donc, une sorte de vision du monde un peu générale et qui amène à une pratique, en fait, ou une pratique d'investissement dans le monde dans lequel, justement, la pensée et la pratique sont intimement liées. Et d'un point de vue, je dirais, quasi méthodologique, ça se traduit par l'induction. Tout est dans l'induction. C'est-à-dire qu'on trouve, Gilles trouve dans ses observations les éléments, les mécanismes. Mécanisme est un mot un peu fort, un peu inadéquat ici. Les cheminements, les raisonnements qu'il va ensuite formaliser et proposer, diffuser, nous soumettre. Avec une pratique qui est assez, là encore, ordonnée. Tout commence par l'observation. Ne pas intervenir tout de suite, mais regarder, observer, saisir des choses. Ensuite, la pratique de terrain. Le jardin, le potager qu'on a vu, la main dans la terre, pas toujours dans la terre, on voit arracher une herbe ici, bon, etc. Puis la comparaison, le référencement. Alors ça suppose d'avoir fait le travail d'aller regarder un peu autour ou un peu ailleurs. Et à la fin seulement, la théorisation, la généralisation. C'est du moins ce que Gilles laisse à voir, et ce qu'il nous dit. Et ce lien intime entre pensée et pratique, il est parfaitement incarné par les idées-outils, je reprends la formule de Gilles, on pourrait parler de concept, les idées-outils, qui d'ailleurs incarnent un peu ces propositions théoriques. À chaque idée-outil correspond le lieu de son inspiration et le principe qui est tiré de la pratique de ce lieu. Alors, juste faire les trois les plus connus, le jardin en mouvement, la vallée, c'est-à-dire une pratique, une immersion dans un site, la vallée, et puis un principe, faire le plus possible avec, le moins possible contre les énergies du vivant. Le jardin planétaire, alors là, c'est un peu plus curieux parce que c'est la Terre, le lieu. Alors là, c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est la Terre parcourue par Gilles et la Terre observée par les astronautes qui ensuite changent notre regard sur notre monde fini. Et là, le principe, c'est la finitude du monde et la responsabilité de l'homme à l'égard de ce monde, restituer les énergies, préserver les ressources, sauvegarder le vivant. Et puis le dernier exemple, c'est le tiers-paysage, avec un lieu, là encore, un lieu de pratique, un lieu d'investissement, Vassivière en Limousin, et puis des observations sur le rôle des délaissés et des réserves comme refuge de biodiversité, et du coup une proposition qui est de modifier nos manières d'aménager ou d'investir les lieux en laissant une place à l'expression de cette diversité. Bon, voilà un peu le premier point que je voulais souligner sur ce lien étroit entre pratique et théorie. Ce n'est pas une théorie déconnectée, disons, de la pratique, de l'ancrage dans l'action. Et tout part du site et de la pratique. Deuxième point, deuxième morceau de ma première partie, politique sans le vouloir. Ça, c'est la question de l'engagement et le fait que, comme l'a exprimé Gilles directement, plutôt dans la semaine, ben effectivement, il était entré en politique, je dirais, quelque part naturellement et sans y avoir pensé, sans l'avoir planifié, en tout cas. Alors, je vais essayer de revenir un petit peu là-dessus. D'abord, il y a la question de l'engagement et avec un rapport que je trouve un rapport ambivalent dans l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'engagement entier, plein, et il y a en même temps beaucoup de précautions, parfois de discrétion, pas tout le temps. En tout cas, il y a un engagement qui est très choisi, si j'ose dire. Il y a une dimension éthique. Alors, j'ai banni le mot moral parce qu'on a entendu Gilles refuser plus tôt dans la semaine cette référence-là. Mais néanmoins, il y a une dimension éthique. Voilà. Bon. Qui est à la fois de l'ordre du rapport, alors justement, du rapport à l'expérience, du rapport au site, du rapport au jardin concret. C'est une sorte d'exigence qui viendrait de la situation ou qui mène à une confrontation au réel, à la matière, au sol, au vivant, et qui requiert un engagement plein dans le site, c'est-à-dire vraiment se consacrer à ça. Et puis, en même temps, et toujours sur ce registre-là d'un engagement qui a un fondement éthique, il y a la gravité des désordres consacrés et du coup une sorte de devoir impérieux. Je ne sais pas comment il faut le formuler exactement. C'est-à-dire qu'il y a, une conscience d'une situation qui appelle à réagir ou en tout cas à adapter nos comportements. Et donc, de là naît l'engagement. Alors, comme je l'ai un peu souligné, il y a une double dimension. Il y a une dimension physique dans l'engagement et une dimension politique. Mais là encore, quand je dis la dimension physique dans l'engagement, et si on fait référence, si j'imagine par exemple un certain nombre d'engagements physiques au sens du combat personnel, là, combat d'idées, oui, mais bon, l'engagement dans l'action directe au sens que l'entendent un certain nombre de groupuscules, pas vraiment. D'ailleurs, il y a l'anecdote intéressante de mai 68, je ne sais plus, c'est dans La Sagesse des Jardiniers, je ne sais plus, oui, c'est ça, avec ces débats un peu fumeux, un peu vaseux, et puis finalement, tu t'en vas herboriser. Quelque part. Il y a un engagement où le rapport au terrain est jugé plus fructueux et plus, plus important finalement que les lucubrations, je je me mets à la place de ce que on sent, de ce que tu penses de la situation à ce moment-là, l'élucubration en chambre, où on veut tout révolutionner, certes, mais bien. Et puis, donc, une dimension politique, mais alors pas en mai 68, si j'ose dire, ou alors si, une dimension politique tout à fait paradoxale, c'est-à-dire qu'au moment où tout le monde fait de la politique, Gilles va herboriser, et c'est ça, la proposition. Alors, cette dimension politique, au début, elle est purement implicite. Elle n'est pas revendiquée, elle n'est pas exposée en tant que telle. C'est simplement l'énoncé d'une pratique, dans les textes les plus anciens, qui vaut proposition politique. Et puis, plus ça va, plus il y a un positionnement explicitement politique et l'énoncé de proposition que je qualifierais de plus en plus radical. Et il y a un moment, pour moi, il y a un moment charnière, mais je me trompe peut-être, c'est le communiqué du 7 mai 2007, au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy, un texte d'une grande, je dirais, virulence, qui prend acte, d'une certaine manière, du résultat de l'élection qui dénonce ses implications. Alors, je n'ai pas prévu de le lire explicitement, mais je reprendrai plein de formules dans le peu de temps qui me reste. Donc, j'accélère. Et donc, cette position politique est progressivement exprimée à travers différents textes et communiqués et occasionnellement assumée par le soutien à des candidats écologistes. C'est arrivé à différentes élections. Et alors, je rajoute pour l'anecdote, c'est arrivé récemment aux élections régionales où Gilles a parrainé une liste Europe Écologie Les Verts sur laquelle je figurais. C'est vous dire, hélas, les conflits d'intérêts qui biaisent totalement mon analyse. Mais bon, c'est ainsi. Voilà, c'est ainsi. Alors, je reste sur le rapport aux politiques, mais il faut vraiment que j'accélère. Donc, ce rapport aux politiques, il évolue. Et il va de l'appel aux politiques au rejet. Enfin, c'est comme ça que moi, je le ressens. Il y a quand même, à la base, la séduction des politiques visionnaires. On trouve dans les textes, à l'occasion, on trouve des propos très laudateurs. Alors, on a entendu Jaime Lerner à Curitiba, là, pendant le colloque. J'ai lu aussi des propos très laudateurs sur André Achery à Moinsartou. On peut trouver, à l'occasion, comme ça, des références à des personnalités dont l'action est appréciée positivement. Mais au total, on est quand même face à une pensée qui est très un désenchantement par rapport à la politique, sans doute du fait du faible écho des cris d'alarme écologistes, mais ça c'est pas exprimé. Si, c'est exprimé. Il y a quand même l'expression régulière de dire « bon, ben, on prêchait dans le désert, et ça fait 30 ans qu'on prêche dans le désert, maintenant on m'écoute un peu, mais bon, pas tant que ça ». Et puis, on évoquait le communiqué du 7 mai 2007, le triomphe du libéralisme et du matérialisme incarné par Nicolas Sarkozy. Bon, je ne vais pas broder là-dessus. Et donc, on glisse à une position d'appel à sortir du système. La question, c'est de savoir comment on fait. Donc, avec un report des espoirs sur des alternatives émergentes, ponctuelles, et puis, par exemple, une référence à ce texte, L'insurrection qui vient, on l'a évoqué aussi plus tôt dans le colloque, avec la personne de Julien Coupa, le groupe de Tarnac, renvoie effectivement à des formes de révolte. Le mot insurrection commence à être prononcé, mais je ne suis pas certain que Gilles aille jusqu'au bout de cet appel-là. Alors, ça se traduit en position idéologique. Je résume. Un plein chaudron de conscience écologique, quelques poignées d'agnosticisme, quelques litres d'altermondialisme et une bonne pincée d'anarchisme. Voilà, donc, voilà la recette. Je reprends à toute vitesse. La conscience écologique, je ne vais pas revenir, elle est très forte. Je pense qu'elle est probablement ancienne, probablement plus ancienne que ce qui est même exprimé dans les textes. Elle prend progressivement une traduction politique. Louisa Jones, dans les commentaires de textes là, dans Où en est l'herbe, signale par exemple que dans les premiers textes, tu ne parles pas de jardin écologique, tu parles de jardin biologique. Apparemment par méfiance vis-à-vis d'une écologie radicale. Et puis, progressivement, le mot est assumé, disons, est porté, avec une revendication explicite, mais une revendication explicite, mais atténuée sous la formule écologie... Atténuée, je ne sais pas, pardon. Écologie humaniste. Je ne sais pas si c'est une atténuation, mais j'ai le sentiment que c'est quand même une manière de dire « rassurez-vous, écologiste, oui, mais humaniste. Voilà. » Alors, j'ai dit quelques poignées d'agnosticisme. On voit bien, on trouve la méfiance par rapport aux religions, au pluriel, mais, à tout prendre, une tendresse, tu l'as répété d'ailleurs, pour les religions animistes, et peut-être même, je dirais, il y a presque une hiérarchie. Il y a les animistes, il y a les polythéistes, et puis après, à la fin, il y a le monothéisme qui est, je pense, trop dur, quoi. Et en tout cas, ces religions sont évaluées à l'aune de leur rapport à la nature, c'est logique, c'est cohérent, en fonction de leur cosmogonie et les attitudes qui leur sont liées. Altermondialisme, je vais pas détailler, mais grosso modo, tu assumes pleinement le rejet de la mondialisation libérale, l'appel à une autre mondialisation. Je vais pas plus loin, je reprendrai dans les 5 minutes qui restent. L'anarchisme, goût pour la marge, la défiance vis-à-vis des règles, un fond de pacifisme et d'antimilitarisme qui n'est pas explicitement formulé, mais il y a un certain nombre d'expressions. Alors, il y a le rapport la dénonciation plutôt du rapport militarisé au jardin et un certain nombre de formules qui quand même... recèle un fond antimilitariste. Et puis une inspiration libertaire. Et Gilles nous a donné la clé, hier ou avant-hier, quand tu nous as dit que tu avais lu effectivement des manifestes anarchistes et c'était une attitude individuelle qui te séduisait, mais qu'en revanche, tu n'y voyais pas la traduction collective. Donc, je pense que c'est une source d'inspiration, sans être pour autant une position préconisée. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai fini la première partie. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Ben voilà. Bon. Alors, je passe de l'autre côté, le jardin comme modèle du monde. Évidemment, le jardin qui est pris comme modèle n'est pas n'importe quel jardin. C'est un jardin dans lequel, par exemple, le tiers-paysage joue un rôle très important. Donc, on voit bien quand on dit que Gilles Clément s'inspire du jardin, c'est pas de n'importe quel jardin. Alors, je vais vous proposer très rapidement... Oui, j'avais un certain nombre de logiques quand même que je voulais commenter... qui sont les logiques dont que Gilles Clément tire de l'observation de la nature et qu'il ensuite retranscrit. Le mouvement permanent, je ne commente pas. L'évolution, avec la combinaison des deux mécanismes lamarckiens et darwiniens, là, il faut commenter un peu parce que, Gilles, tu fais un parallèle très explicitement politique, là aussi. Du côté de Lamarck, l'adaptation est possible, et du coup, une perspective progressiste, qui est interprétée comme étant laissant la possibilité de l'amélioration et du progrès. Et puis, du côté de Darwin, la sélection, le déterminisme, vous êtes né comme ça et vous ne pourrez pas changer, vous ne pourrez pas évoluer, et le mécanisme de la sélection, c'est une compétition qui est vue... Enfin, c'est le darwinisme et la parabole de la société ultralibérale, grosso modo, d'où une préférence très affirmée, vous l'aurez compris, pour le mécanisme lamarckien, tout en étant conscient que, dans la nature, c'est ta position actuelle, les deux mécanismes s'articulent à des rythmes un petit peu différents. Une autre notion, c'est l'équilibre. Alors, je l'ai employé à un moment plus tôt dans le colloque. J'ai été repris. Alors, je me suis dit, oulala. Donc, je suis vite allé vérifier. Mais si, Gilles parle d'équilibre. Mais évidemment, ce n'est pas un équilibre figé, puisque tout est mouvement dans la vision du monde, de la nature, du jardin, de Gilles. Tout est mouvement. Donc, cet équilibre, c'est un moment temporaire. C'est une sorte... On est dans un rééquilibrage permanent de quelque chose qui, en permanence, est bouleversé et transformé. Et puis, un mot que tu n'emploies pas, mais qui a fait l'objet d'un des ouvrages, là, suite à un colloque ici, la sérendipité, c'est-à-dire que toujours la vie invente, et des hasards, en permanence, le hasard est créatif. Et cette création par le hasard, ben, il faut savoir l'accueillir. Derrière, je pointais un certain nombre de valeurs, la liberté, l'insoumission, vous voyez que je ne les commente même plus, l'expérimentation, le droit à l'erreur, du coup, qu'on a évoqué un peu plus tôt, l'humilité, bon, on l'a déjà commenté, l'humanisme, pour moi, ce n'est pas si clair, même si, évidemment, que Gilles Clément n'est pas un ennemi de l'humanité. Mais... c'est quand même c'est une vision dans laquelle l'homme doit se réconcilier avec la nature. Donc, j'ai quand même le sentiment que la nature est au centre, et ce n'est pas pour moi une critique d'ailleurs. Donc, il faudra peut-être qu'on puisse en rediscuter. Et j'en viens à ce que j'avais promis, le discours et la doctrine clémentiste. Alors, c'est comme ça, je conclurai presque par ça. Je vais commencer par l'illustrer par des objets. On trouve des pages très très fortes. Il y a des objets d'adulation. Alors, il y a la taupe. Là, ce n'est pas une citation, c'est mon interprétation. Hein, cet animal merveilleux, ce compagnon infatigable du jardinier, grâce à qui toujours le jardin se renouvelle. Bon, j'essaie de traduire la pensée. Il y a la friche, ce lieu de tous les possibles, cet espace magique où la vie se révèle. Je reprends toujours, là aussi, souveraine. Et il y a le purin d'ortie, élixir universel. D'où le jardin de Mel, jardin manifeste, que d'ailleurs, à un moment donné, tu qualifies de premier jardin, de ta part, explicitement, expressément politique. Mais alors, à côté de ces adulations, il y a des aborrations. Le canon a soufflé. Alors ça, c'était extraordinaire parce que lors de notre première rencontre, tu m'as brillamment montré à quoi pouvait servir le canon à souffler, qui, si je me souviens bien, c'était à déplacer les tigres de Sibérie dans les zoos. Les tigres, ils sont totalement paralysés par ce bruit abominable. Et alors là, on était totalement d'accord. Parce que c'est une de mes aborrations à moi aussi, le canon à souffler. Bon, je vais pas plus loin. La bourse. Les droits à polluer, d'autant qu'ils sont cotés en bourse. Donc, alors là, ils sont doublement aborés. Les biocarburants, hérésie et fumisterie, là, je cite. La technocratie, la bureaucratie, tout ça, ça va ensemble. Bon. Alors maintenant, si je pars des objets et que j'essaie de remonter au principe ou au système, et là, je commence à l'envers, on a des dénonciations. La dénonciation de la militarisation du jardin. Vous voyez le pacifisme sous-jacent. Le jardinage dévoyé comme guerre et destruction. Même s'il y a conscience que dès qu'on intervient dans le jardin, quand même, on va un peu éliminer certaines choses. Bon. La dénonciation de l'arsenal martial. Et puis, qui s'étend ensuite sur une vision beaucoup plus sociétale, la peur instituée, je cite, renforce la puissance des gardiens de l'ordre. Ça, c'est un extrait du communiqué, si je me souviens bien. Je ne sais plus, parce que j'ai combiné plusieurs sources. Comment ? La peur instituée renforce la puissance des gardiens de l'ordre. La surexploitation, autre, donc après la militarisation du jardin, dans les dénonciations, la surexploitation, je ne commente pas, là, on est tous conscients de ça. La domination de l'économie. Et derrière la domination de l'économie, et qui plus est dans sa version ultra-libérale. Il y a toute une série d'items commentes ou dénonces. L'accumulation capitaliste, la marchandisation, la confiscation des richesses par la caste initiée des marchés, je prends des citations. L'assujettissement à la bourse, la santé des entreprises prime sur la santé des individus, et puis tout ce qui en découle, un mode de vie absurde, la soumission à la technologie, les pollutions liées au transport, bon, etc. Et puis dernière dénonciation, plus problématique, non, elle n'est pas problématique, mais pour moi elle pose question, le développement durable, que tu vois comme une caution des pratiques non écologiques. Et donc là, je vois bien le dévoiement, j'aurais bien aimé en discuter, mais hélas, non. Et puis en face de ces dénonciations, il y a des énonciations. Et c'est là on voit ce qui est mis en avant. J'ai essayé de les ordonner, quatre points là aussi. La valorisation des processus naturels, je reprends des intitulés, maintenir et accroître la diversité, favoriser l'invention de la vie, l'expression de sa diversité, exploiter la diversité sans la détruire, requalifier toujours dans la valorisation des processus naturels, requalifier les substrats de vie, le sol, l'eau, l'air, et une formulation qui renvoie à cette idée de recyclage que tu as évoquée déjà, ici dans le colloque, favoriser les complexes écologiques industriels de recyclage de l'énergie. Je ne sais plus où je l'ai trouvé cette phrase-là. Donc, valorisation des processus naturels. Deuxièmement, une sorte de compensation, le brassage planétaire. C'est-à-dire qu'il faut laisser ouvert cette idée de l'échange, de l'accueil, du brassage. Et on voit bien que derrière, il y a la dimension des mouvements, des éléments de nature, mais il y a aussi la dimension culturelle, c'est-à-dire l'échange entre les peuples. Et là, on a un humanisme. Troisièmement, la valorisation des initiatives alternatives, avec différentes dimensions, la question de l'autonomie et de la simplicité qui pose problème pour autant, enfin qui mériterait d'être discutée, la valorisation des solutions localisées et une dénonciation de la, je reviens à la technocratie que j'évoquais tout à l'heure, de l'encadrement excessif, je l'ai noté, assouplir les règlements, parfois les supprimer. Ça, c'est une formule que tu as rédigée. Et puis, un dernier point qui est l'essai d'articulation entre le brassage planétaire et l'appel à des solutions locales qu'on trouve dans le point suivant, qui est celui d'une mondialisation nouvelle non inféodée à l'ordre marchand. C'est une formule que je reprends texto de Gilles. Une politique de non-accumulation de biens surnuméraires et polluants. L'articulation que tu as évoquée hier, je crois, entre une décroissance matérielle et une croissance immatérielle. Et puis, une formule que je cite là encore, parce que je crois qu'elle elle peut permettre de donner forme à l'idéal qui est exprimé. Un réseau de projets locaux éclairés par une vision élargie et tolérante où les constituants naturels et culturels issus du brassage planétaire dictent les règles d'une économie locale. Donc une articulation entre des fonctionnements locaux, localisés, et une organisation en réseau entre ces différents lieux. Et je conclue. Voilà. En premier point, j'ai noté la question de la politique. Alors, je laisse de côté une question fondamentale qui est celle de l'organisation sociale. Je voulais conclure là-dessus, enfin, du modèle d'organisation. Mais au moins une question qui est celle du degré de radicalisme. Et notamment, est-ce qu'on est dans une forme... on sent une hésitation, si j'ose dire, entre un réformisme et une séduction pour des solutions plus radicales, mais qui ne sont pas finalement clarifiées. La question du collectif, comment passer de la conviction personnelle à la dimension collective qui, de mon point de vue, seule fait politique. Et là, on sent que... Alors, Gilles a une réponse qui n'est pas une réponse par l'organisation politique, mais sans doute une réponse par la conviction et par l'éducation, par la transmission. Alors, c'est ma troisième question, la question de l'éducation. J'ai repris une phrase, mais ça, comme je n'ai pas noté sur mon texte d'où elle est, c'est idiot. Mais parvenir à enseigner les savoirs alors que j'apprenais à m'en défier. Et donc, on est dans cette question-là. C'est-à-dire qu'on apprend une méthode qui est à la fois très exigeante, et en même temps qui doit être en permanence habité par le doute, et comment on fait pour transmettre ça. Puis une autre question sur l'éducation, comment éduquer à l'alternative? Quatrièmement, la question du libéralisme. Alors, la situation, a priori, est claire. Je dirais qu'on peut caractériser la position proposée comme une position libertaire, antilibérale, certes. Mais en même temps, moi je suis frappé, et c'est pas propre à toi Gilles du tout, hein, c'est un questionnement beaucoup plus général, par l'ambivalence des solutions. Moi j'ai souvent, ayant travaillé sur le développement local avant, j'ai souvent souligné comment le développement local, je l'ai encore dit hier dans une discussion, élaborer l'idée, la théorie du développement local, élaborée dans une logique autogestionnaire, s'est moulée parfaitement dans la mondialisation libérale. Et les territoires sont en compétition, etc. Et donc, il y a cette question d'ambivalence des solutions. La déréglementation, ça plaît beaucoup aux libéraux, aussi. Ah. Cinquième question, il y a que sept. La question du localisme et de l'universalisme. Il y a dans certains propos l'idée d'une adéquation absolue entre l'idée et le site. Cela étant, tu t'en sors quand même en disant, mais il y a aussi les concepts, qui eux sont plus généraux. Du coup, la question, c'est quelles sont les conditions de validité d'une idée? Quelles sont les conditions de validité d'une généralisation de l'idée par rapport au site d'où elle a émergé? Et comment articuler, quelles sont les conditions d'articulation entre des vérités locales et des principes universels, hein, qui les deux apparaissent? Et après, j'ai deux choses qui sont peut-être moins importantes. Mais bon. La question de la gestion, ou plus exactement de la non-gestion. C'est-à-dire, on voit bien que derrière les propositions du jardin en mouvement, ou ensuite du tiers-paysage, il y a l'idée d'une absence d'intervention. Ah ben, pas jusqu'au bout. Alors voilà, le truc, c'est pas jusqu'au bout. Et donc, quels critères on pose à ce choix d'intervention? Il y a une grande marge d'interprétation qui reste à clarifier. Et puis enfin, la question de la forme, avec, et ça c'est classique, le dilemme projectuel entre des formes libres, naturelles, spontanées, souples, mobiles, et puis quand même pour autant des projets qui, dans certains cas, acceptent une géométrie ou imposent une géométrie. Et puis, quelque chose que j'ai évoqué déjà dans une de mes questions, je ne sais plus à quel moment, cette question de l'esthétique et de l'esthétique du tiers-paysage, dont tu dis toi-même qu'il faut inventer une nouvelle esthétique, une esthétique non formelle. Pour conclure, je vois dans l'œuvre de Gilles un univers politique qui est cohérent, parfaitement cohérent, bien qu'inabouti. Alors, on voit des convergences avec toute une série de mouvements intellectuels et politiques. Bon, je vous ai déjà cité l'écologie politique, l'altermondialisme, les nouvelles formes de résistance, et on l'a vu aussi dans le programme du colloque, hein, occupation de friches, les ZAD. On a une doctrine personnelle forte, et cette doctrine personnelle forte, elle a pu être diffusée grâce à la notoriété que tu as acquis. Mais comme je le disais, pour moi, il y a quand même des manques ou peut-être des failles, je ne sais pas. Les modalités de construction politique, d'intervention collective, ne sont pas clarifiées. L'organisation, mais encore une fois, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein, l'organisation future ou visée, quelles sont les formes d'organisation sociale, politique, qui correspondraient à cette aspiration qui est énoncée? Quelles sont les formes de gouvernance et d'arbitrage qui répondent à cet univers que tu exposes? Ça, c'est encore à travailler. C'est à nous, à travailler par nous tous. Jusqu'à présent, ce que je crois, c'est que tu as construit ta propre philosophie politique, mais tu as refusé de la traduire en machinerie politique. Et c'est position tout à fait honorable. Il reste une pensée libre et en mouvement, en cohérence avec ce que tu nous dis du monde. Et en cela, effectivement, cette pensée, elle est bien fidèle au personnage qu'est Gilles Clément et qu'on a pu découvrir toute cette semaine. Voilà.